Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Gilles Le Gardinier, qui vient nous parler de son nouveau roman, Et soudain tout change. Donc on verra que tout change, mais pas vraiment finalement. Alors on va commencer par une petite présentation protocolaire, ça c'est le moment un petit peu solennel de cette conférence, et puis après on va passer sur votre roman en tant
là,
que tel.
Là, vous me faites peur, là, franchement.
Non, ça va pas faire mal, ne vous inquiétez pas. Donc, vous avez commencé à travailler très tôt pour le cinéma et la télévision.
Cinéma. La télévision, ouais. Non.
D'accord.
J'évite la télévision.
Et vous avez travaillé notamment comme pyrotechnicien.
Ouais.
Ensuite, vous avez réalisé des films publicitaires,
ouais.
Des bandes annonces et des documentaires sur plusieurs blockbusters.
Ouais.
Et aujourd'hui, vous consacrez à la communication pour le cinéma. Et au scénario ainsi qu'à l'écriture de vos romans. Alors vous avez commencé votre carrière littéraire par l'écriture de polars et de livres pour la jeunesse.
Oui.
Mais c'est vraiment en 2011 que la rencontre avec le public se fait, avec lorsque vous publiez Demain j'arrête, donc cette fameuse couverture inoubliable avec le petit chat avec le bonnet pluriviens sur la tête. Juste pour information, le bonnet pluriviens, il vient de le troquer avec un chapeau de Père Noël dans l'édition collector en pocket. Alors que ce soit en grand format ou en poche, d'ailleurs, ce titre-là fait partie des livres qu'on aime bien offrir quand on dit, quand la personne a un petit moment de doute ou qu'elle veut une lecture sympa, qui veut se faire du bien, tout simplement.
Vous êtes en train de dire que je suis une aspirine, c'est ça ?
Si l'image vous plaît,
oui, mais
je pense
moi.
Qu'il y a pire. Comme
soigner les gens, ça me va, moi. Ça me va
bon,
très bien.
Ça va.
Je préfère être une aspirine qu'un suppositoire. Oh, pardon,
Alors, le succès que vous avez connu avec ce titre-là ne s'est pas démenti avec votre deuxième roman vraiment connu, en tout cas qui porte ce signe très distinctif avec le petit chat. Donc là, je parle de Complètement cramé. Et maintenant, avec ce nouveau titre, Et soudain tout change, on voit que vous n'êtes pas tout à fait dans le même registre, on va dire peut-être un registre un tout petit peu plus sombre que les précédents.
Je ne sais pas, je crois pas. Enfin, je ne suis que l'auteur, mais je ne crois pas.
Mais en tout cas, il y a toujours quand même l'humour qui vous caractérise, mm-hmm. Et ça reste toujours drôle, impertinent et toujours très très agréable à lire. Je pense que ceux qui parmi vous ont déjà lu ce titre ne me démentiront pas. Donc dans celui-ci, on va suivre les aventures de Camille. Je vais vous laisser en parler de cette fameuse Camille.
D'accord. Alors, l'idée pour rebondir ce que vous disiez, oui, c'est à chaque fois j'essaie de parler de la vie, mais dans Demain j'arrête, c'est une jeune femme qui vient de se faire larguée, qui est seule, qui est malheureuse et qui ne sait pas de qui elle va tomber amoureuse, c'est pas franchement joyeux. Bon, le livre l'est quand même. Dans Complètement cramé, c'est un monsieur qui pense que sa vie est surtout derrière lui. C'est pas joyeux, mais c'est quand même. Et là, c'est la jeunesse qui est confrontée à ce qu'il y a de pire dans la vie, c'est-à-dire la maladie et la mort. Mais ils ont l'énergie de leur âge, ils ont les doutes de leur âge, et j'aime bien prendre des personnages proche de ce que je suis, de ce que je ressens et de ce que je vois dans la vie autour de moi, et les cueillir ou les placer dans une situation où en fait ils sont obligés de se poser des questions sur eux-mêmes. Parce que je crois que ça nous arrive tous, on a tous des doutes, on a tous des peurs, souvent les mêmes, garçons et filles, je me suis beaucoup rendu compte de ça, parce que même si tout le monde m'a dit que c'était très rare, enfin que c'était bizarre que ce soit un homme qui ait écrit Julie dans Demain j'arrête, ou même Camille dans Et soudain tout change, je pense qu'au-delà des codes, on ne s'exprime pas de la même façon, mais on a les mêmes peurs, les mêmes angoisses, les mêmes aspirations, la même envie d'aimer, d'être aimé, les mêmes doutes sur nous-mêmes. Je crois que ça, c'est assez universel, homme ou femme. Alors après, c'est toujours plus intéressant de l'écrire d'un point de vue d'une jeune fille ou d'une jeune femme, parce que les filles ont une capacité à ressentir, à imaginer, à se faire des délires, à se battre, à donner, que nous, on n'a pas. C'est-à-dire que nous, c'est assez simpliste. Un ballon, un chien, on arrive à s'amuser. Mais vous, il vous faut des sacs à main et des chaussures, ce qui est quand même nettement plus compliqué. Quand même. C'est alors que nous, regarder un homme avec un escarpin, on ne s'en sort pas. Mais du coup, voilà, c'est toujours des gens qui sont en doute et avec des doutes qui, moi, me parlent. Parce que depuis gamin, j'observe les gens, à mon avis, parlent à beaucoup de gens. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On en est arrivé à Camille parce que l'idée pour moi c'était je ne crois pas qu'une jeune femme en doute soit une fofolle. Je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est beaucoup plus beau que ça, c'est le cas de Julie. Mm-hmm. Je crois pas qu'un vieux monsieur, enfin un vieux monsieur 66 ans, c'est pas vieux, mais je crois qu'un monsieur qui est hors carrière, on va dire, soit quelqu'un de fini, je suis pas d'accord avec ça. Et je ne pense pas qu'un adolescent soit juste un décérébré qui soit dangereux pour la société, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire aujourd'hui, et je suis pas d'accord avec ça non plus. C'est à travers les comédies, c'est aussi l'occasion de voir des personnages qui font partie de notre quotidien. Aujourd'hui, on a tendance à se couper de la jeunesse, on a oublié qu'on l'a été, j'aurais pas aimé m'élever. Je sais plus à qui j'ai dit tout à l'heure, mais franchement, j'aurais pas aimé m'avoir comme enfant. Mais ils ont un regard, ils ont une énergie, ils ont des doutes, et on en fait des espèces d'animaux dangereux qu'on écarte de la société. Je pense que c'est une grosse erreur. Et la meilleure preuve, c'est que si vous vous souvenez, alors il y en a qui, je vois les âges, il y en a qui sont encore dans ces âges-là, il y en a qui les ont passés de quelques mois. Rappelez-vous les doutes qu'on a, rappelez-vous les questions qu'on se pose, rappelez-vous la trouille qu'on a, rappelez-vous les réponses idiotes qu'on nous fait. Essayons d'aller au-delà de ça et de se rendre compte que finalement, il n'y a pas les jeunes, il n'y a pas les adultes, il n'y a pas les vieux, il y a des gens en devenir, en doute, qui en général s'en sortent parce qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils avancent en équipe. Mmh. Ça, je crois beaucoup à ça. C'est ce qui caractérise notre espèce, Dieu merci. C'est pour ça qu'on est tous assemblés là, et ça, je trouve ça très bien.
Et justement, vous parlez de ce rassemblement. Comment vous expliquez le succès que vous connaissez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une recette, Gilles Le Gardinier, quelque chose?
Non, je crois pas.
Un secret?
Non, vraiment. Alors, d'abord, je ne l'explique pas. J'en suis l'heureux bénéficiaire, j'en suis fou de bonheur. Pour moi, c'est miraculeux. Mais je ne suis pas capable de l'expliquer. Les gens réagissent et je reçois des messages, je vois des gens, je vois les yeux, je vois les visages des gens qui m'ont lu et qui sont face à moi. Ça me bouleverse. Mais je ne suis pas capable. Il n'y a pas de recette. Je pense que quand quelqu'un qui écrit, on travaille sur une matière affective. Écrire, c'est un métier d'artisan. Mais ressentir les histoires, c'est pas un métier. C'est une passion. Quand on commence à se poser des questions, à se dire qu'est-ce qui pourrait plaire et qu'est-ce que je dois écrire, faut changer de métier. Et je sais pas, je crois que c'est Christine, hein, c'est ça ? Avec Christine, tout à l'heure, on en parlait. Écrire, c'est comme tomber amoureux. Vous sortez pas le matin en vous disant « Alors aujourd'hui, je vais tomber amoureux. » Ça, c'est sûr, ça va donner quelque chose de magnifique. Mais vous sortez, vous rencontrez quelqu'un, vous tombez amoureux. Ça, c'est la vraie vie. Et pour moi, écrire, à mon sens, c'est ça. C'est-à-dire, je ne me suis pas dit qu'est-ce que je vais leur vendre, c'est qu'est-ce que j'ai envie de partager. Et à partir de là, je tente, et les gens me font l'honneur de me lire, de s'y intéresser, un peu parce que le chat est ridicule, je leur remercie beaucoup, merci à tous les chats d'être ridicules.
D'ailleurs, d'où vient cette idée de sous la couverture?
Alors, à la base, mon éditeur m'avait proposé un dessin d'un peu littérature chiclite, vous savez, les romans et tout, ce qu'à mon avis, le roman n'était pas. Mmh. Et après, ils ont essayé de personnifier Julie, c'est-à-dire de me mettre une Julie sur la couverture. Et moi, je ne voulais pas, parce que je voulais que les lecteurs, particulièrement les lectrices, et l'espace et la place d'imaginer leur Julie, voire même se reconnaître. Parce que j'observe, je ne sais plus avec qui je parlais tout à l'heure, mais méfiez-vous, les hommes en voient plus que ce que vous croyez, mesdames. Et on ne le dit pas toujours par pudeur, par affection, parce que vous ne voulez pas qu'on le dise, parce que des fois on voit bien que ça vous gênerait qu'on le voit. Donc certains le voient, mais on vous observe quand même, on passe notre temps à vous regarder. C'est d'ailleurs un plaisir. mais du coup, il suffit après de caser des codes, et je voulais que ce soit assez universel. Donc je ne voulais pas figer l'image de Julie sur la couverture. Donc au final, je leur ai dit, étant donné l'histoire, si on met le bonnet péruvien, c'est au chat. On a fait donc un casting photo de chat. À qui on n'a pas réussi à mettre de bonnet parce qu'on serait fait déchiqueter. Donc on lui a collé le bonnet Photoshop et après le reste, c'est les gens qui ont trouvé cette image rigolote, ce que j'espérais, avec un fond fluo que j'ai choisi. Et voilà, et après j'ai décidé d'en faire ma marque de fabrique pour les 4 premiers bouquins. Donc le prochain, ce sera encore un chat.
D'accord. Je voudrais juste vous préciser qu'en tant que libraire, moi je trouve que c'est une idée absolument géniale parce que tout de suite... C'est vrai que les titres, généralement, on les oublie très vite. Les noms de l'auteur, je ne vous en parle même pas. Souvent, on me demande, je cherche le livre avec le petit chat avec le bonnet péruvien ou, vous savez, les petits chats en couverture. Et tout de suite, nous, on situe. Et puis, il y a une espèce d'effet collection qui fonctionne très bien.
Merci.
Non, vraiment,
c'est... Après coup, je me rends compte que c'était une bonne idée. Merci, Gonel.
Là, je vais parler de quelque chose d'un peu plus dérangeant. C'est juste par rapport à une espèce de snobisme à la française qui consiste à critiquer tous les auteurs qui rencontrent du succès. Comment vous réagissez par rapport à ça ?
Je vais être sincère, je m'en fous.
Ouais.
On a des gens qui nous dépeignent un monde catastrophique, qui donnent des avis sur tout, on ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas pourquoi ils parlent, ils ont des tronches en biais. Quand c'est des experts, ils n'ont plus de cheveux. Vous avez remarqué à la télé ? Dès que c'est des experts, ils n'ont plus de cheveux. Et quand ils sont jeunes et un peu aventureux, ils ont les cheveux longs. C'est bizarre quand même. On est... Enfin, voilà. Après, c'est le Muppet Show un peu. Donc... Et donc, je ne sais pas quelle vie ils ont pour vivre comme ça. Donc il y a des gens pour qui mes livres sont écrits, d'autres pour qui ils ne sont pas écrits. On ne peut pas plaire à tout le monde et ce n'est pas mon but. Mon but, c'est simplement d'être en adéquation avec les gens à qui j'essaie de parler. Honnêtement, il n'y a pas de snobisme, il n'y a pas de... Les lecteurs et les libraires m'ont porté. C'est vous et c'est vous qui m'avez sorti avec Demain j'arrête, sans aucun article de presse, sans jamais passer à la télévision, sans que je me fasse refaire les seins. Donc ça doit être possible. Donc voilà, donc la vie se fait sans ces gens qui jugent. Continuons. On est pas mal entre nous.
Et puis c'est vrai, vos livres bénéficient d'un bouche à oreille absolument démentiel.
Je m'en rends compte. C'est un livre que les gens offrent. Et ça me bouleverse. Parce que pour moi, c'est extraordinaire. Être offert, c'est un honneur énorme. Après, je pense que... Je ne sais pas combien j'ai de lecteurs, mais je pense que j'en ai en fait 4 fois moins que de livres vendus. Parce qu'en fait, chacun de mes lecteurs a beaucoup offert mon livre. Donc c'est, pour moi, c'est juste miraculeux, quoi. Et non, il n'y a pas snobisme. Mais c'est, vous savez, on n'enseigne pas Dumas, on n'enseigne pas Verne. Alors, je ne me compare pas à eux. Hein. Oulolo. Mais on ne les enseigne pas dans les écoles. Mais je préfère être sincèrement une petite cabane dans les bois dans laquelle les gens viennent se blottir volontairement s'ils s'entendent bien qu'un espèce de temple prétentieux au fronton néo-grec dans lequel on est obligé d'entrer soit par l'école, soit par les médias, soit par une intelligentsia bien pensante dans lesquelles les gens rentrent à reculons en ayant froid. Voilà. Venez dans ma cabane si vous voulez. Merci. Donc non, je réagis pas mal du tout, je suis très content. Les journalistes commencent à s'intéresser à moi parce que vous vous êtes intéressé à moi avant. Je les accueille calmement, mais voilà, je préfère vous voir.
Donc là, on va revenir sur l'histoire de Issoudun, tout change. Mm-hmm. On va parler donc du personnage principal de Camille.
Ouais.
Qui est-elle
Camille, c'est... alors, pardon, même si on est des garçons, c'est vous, c'est moi, c'est vous toutes, vous tous, en dernière année de lycée. Mm-hmm. C'est, grosso modo, on est dans un rail éducatif en France qui nous emmène jusqu'au bac, où on ne se pose pas de questions, le but c'est de choper le bac. Et puis après, c'est un espèce de grand saut dans le vide où on ne sait pas, on se pose plein de questions. L'école est pour moi le premier endroit où on vit sa vie en dehors des parents. Ça commence au collège, ça se concrétise particulièrement au lycée. Bref, c'est le moment où ils sont encore en sécurité sur des rails, dans un espèce de confort affectif, où les parents, on s'en éloigne un peu, mais ils sont encore là et on en a beaucoup besoin. Et ils découvrent les adultes, parce que les premiers gens exceptionnels qu'on rencontre, ce sont souvent des profs. Les premiers grands crétins qu'on rencontre, ce sont souvent des profs. Et c'est aussi une école de la vie. C'est-à-dire, le rapport à l'adulte, ça prend au lycée. Les vrais amis, on se les fait au lycée. Les vrais ennemis, on se les fait au lycée. On vaut mieux vieillir avec les vrais amis. Et pour moi, c'est vraiment un moment charnière par lequel on est tous passés. Et Camille est un peu la synthèse de ça. Alors, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, parce qu'une jeune fille est toujours plus... riche, dynamique, imaginative, sentimentalement, et que moi, ce qui m'intéresse, c'est les sentiments. J'ai pris un média féminin, c'est-à-dire Camille est une jeune fille, mais honnêtement, je me retrouve beaucoup dans Camille. Les hommes qui ont lu le livre se trouvent un écho dedans aussi. Et donc, en fait, c'est vraiment une jeune fille normale, à un âge où beaucoup de choses vont se jouer et où se sont déjà jouées. Et elle a sa bande, elle a ses copains, elle a sa vie. Mais le début de l'histoire, c'est quelque chose d'assez... c'est le lieu commun, et je dis ça pas le lieu commun au sens de la banalité, mais l'endroit commun qu'on a tous partagé. Sauf ceux qui étaient soit exceptionnellement doués à l'école, mais qui étaient déjà isolés, rappelez-vous. On en a tous connu, hein, des gens qui étaient super doués, et qui aujourd'hui, si vous vieillissez avec vos amis, moi je sais que j'ai cette chance, je suis resté fidèle... ils sont directeurs très haut dans des trucs très compliqués, mais finalement, humainement, ils ont loupé une part de cette espèce de frottement social qu'on a à ce moment-là, et ils le regrettent parfois un petit peu. C'est pas, ce sont des généralités, elles sont toujours réductrices. Et puis, vous avez où la deuxième chose qui éloigne les gens, c'est d'être exceptionnellement beau. Mes potes qui étaient très beaux, très grands, qui étaient tout musclés, machin et tout, c'était, ils avaient un rapport particulier à l'autre parce qu'on venait à eux, ils n'étaient pas obligés d'aller. Et pour les filles, c'était la même chose. On leur courait après, elles n'avaient pas besoin de. Alors que moi, j'étais de ceux qui avaient besoin, entre guillemets, d'être utiles pour être agglomérés aux autres. Ce qui était mon but. Donc voilà, Camille, c'est un peu au confluent de tout ça. Elle a une bande de copains. Ce n'est pas des typologies, je n'ai pas cherché à savoir ce qui était. Pas faire un catalogue exhaustif. Donc elle a des gens avec qui elle a une espèce d'attirance, mais elle sait pas ce que c'est encore. Elle a sa meilleure amie, elle a des copines, il y a le deuxième cercle, le troisième cercle, il y a les lèche-bottes, les faux-culs, les dangereux, les pourris, les magnifiques, les décalés fous. Tibor est un personnage que moi j'adore.
Ah, moi aussi, c'est mon préféré.
On en a tous eu dans la classe. Des gens qui ont leur logique à eux, qu'on comprend pas, ils loupent la porte, des gens qui sont...
En même temps, génial, parce que dans le cas de Tibor, c'est celui qui va accumuler les très bonnes notes en maths. À un moment, il a un 18 en maths, ouais. Et je crois que pour lui, c'est la fin de tout.
Il a que 18, oui.
Il a que 18, oui. Et en même temps, il va faire des choses complètement incongrues. Vous avez quelqu'un en tête comme ça ou c'est,
Non, je pense que mon bouquin le plus drôle, ce sera mes mémoires. Parce que j'ai fait pire que tout ce que je mets dans mes livres. Et j'ai vécu pire. Mais je mets un point d'honneur à ne jamais piller ni mes proches, ni des anecdotes qui ne m'appartiennent pas, ou même qui m'appartiennent, qui appartiennent à la sphère privée. Parce que notre métier en tant qu'auteur, c'est pas de recycler ce que vous avez vécu, c'est d'imaginer ce que vous avez vécu en l'emmenant un petit peu plus loin. Voilà, mais on doit vous apporter quelque chose qui n'est pas issu de la réalité. Si vous voulez de la réalité, vous allumez la télé, vous sortez dans la rue. Nous, notre métier, à mon sens, la façon dont moi je pratique l'écriture, c'est de ne pas vous séparer de la vie, ne surtout pas vous séparer de ce que vous êtes, mais vous emmener un tout petit peu au-delà. Mes bouquins sont un peu des fables. C'est pas un monde de bisounours, hein. Il y a des morts, il y a des malades, il y a des gens qui ont de la peine, il y a des douleurs, il y a des doutes. C'est pas la petite maison à la prairie, mais enfin quoi, il y avait des épisodes très durs. Mais quand Laura Ingalls a du mal à porter le bois. Mais par contre, pour moi, on a tous les mêmes vies. Ce qui les rend différentes, c'est la façon dont on les voit, nos existences, et la façon dont on les partage. Mais on traverse tous les mêmes épreuves, tous. On a tous connu les mêmes typologies de gens, tous souffert des mêmes choses. Ce qui différencie les existences, c'est la façon dont on réagit et avec qui on réagit.
Je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit à l'instant, que le moment, peut-être, votre livre le plus drôle, ce seront vos mémoires. Mm-hmm. Justement, j'ai l'impression qu'il y a une tentation de ça, notamment dans vos remerciements, oui. À la fin, où à la fin, Gilles Le Cardinier fait... Il y a toujours 5 ou 6 pages où vous expliquez des faits.
Où je raconte.
Voilà.
Alors, c'est pas un acte d'orgueil, hein. C'est un acte de partage. Parce que...
Ça se ressent pas comme ça, en tout cas.
Ouais.
Hein,
alors, moi, l'idée, c'est si quelqu'un. J'aime bien dire ça. Si un jour vous n'avez pas confiance en vous, ou vous pensez que vous avez tout raté, juste revoyez ma tête. si vous faites pire, on en parle. Et à ce moment-là, on fait un club. Mais je peux donner de leçons à personne. J'ai loupé trop de choses. J'ai douté trop de choses. Mmh. Même encore aujourd'hui. Enfin, voilà, je suis quelqu'un de fragile, de dépendant des autres. Ça veut pas dire que je suis inféodé aux autres, mais ça veut dire que moi tout seul j'ai pas d'intérêt. Mon plus grand souhait dans la vie, c'est d'être associé à des choses que je valide humainement et affectivement. Et après, je trouve toujours dommage quand on écrit quelque chose de sincère. À un moment, je ne suis pas la jeune fille, je ne suis pas le monsieur de 66 ans, et les remerciements sont pour moi le seul moment où j'ai le droit de tomber le masque et d'être moi-même. Et c'est ce que je dis, même si ce qu'on écrit est imaginaire, ce qu'on ressent est réel. C'est-à-dire que les sentiments qui naissent de ces histoires imaginaires, c'est pas particulier à mon livre, et c'est pour ça que vous venez tous au livre, c'est pour ressentir. C'est-à-dire que les histoires sont imaginaires, mais les sentiments sont réels. Et à un moment, j'aime bien raccorder avec les gens avec qui je travaille. Parce que j'adore l'idée d'être sur vos tables de nuit, dans vos sacs à main, sur vos tables de salon. C'est ma place. Je me sens bien un petit peu chez vous et vous venez me chercher quand vous avez envie. Voilà, ça c'est mon idéal. Discret dans mon coin et j'attends qu'on vienne me chercher si on a besoin de moi. Et après, la tentation des mémoires, elle est plus là pour... comment dire, c'est particulièrement vrai en ayant écrit celui-là. On voit beaucoup les adolescents. Les adolescents sont soumis à des gens qui soit leur ordonnent, soit leur vendent. Parce qu'on les déteste, mais on ne perd jamais une occasion d'essayer de leur fourguer des cochonneries. Qui leur défoncent le cerveau, qui leur... Enfin, voilà. Et aujourd'hui, je trouve que les gamins manquent de gens qui viennent les voir en disant juste « Hop, 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 on se détend. J'ai eu ton âge, j'ai tout foiré, et regarde, je suis toujours vivant. » Donc garde espoir, essaie de pas en faire des trop grosses, avance, valide ce que tu crois, et ne te laisse rien passer. Sois ton pire bourreau. Ne laisse pas les autres te corriger. Voilà, et c'est vraiment le seul truc. Et moi, mes mémoires, ce sera pas pour dire quel homme fantastique j'ai été, même si sur le fond, il faut être très clair. C'est vrai. N'en aie pas peur, Gwenaël. Je ne vais pas devenir un autre auteur. Mais dire juste, voilà, dire la vérité une grande fois pour toutes et dire, voilà, j'ai loupé tout ça. Mm-hmm. Mais c'est un peu ce que font mes personnages. C'est des gens qui pourraient être sûrs d'eux. Et qui, parce qu'ils sont affectifs et ouverts aux autres, ne le sont pas. Mais je crois que c'est le cas de la plupart des humains. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question.
On retrouve Camille, ses meilleurs amis,
ouais.
Et aussi quelques ennemis. Hein. Et il est notamment question de quelque chose qui lui arrive à sa meilleure amie, c'est Léa, si je me souviens son nom.
C'est Léa, oui.
Et qui... je ne sais pas si on peut dire sans dévoiler trop la trame.
C'est dit dès le départ.
C'est dit dès le départ, ouais.
Léa est malade.
Oui.
Une maladie qui sonne comme un compte à rebours. Et en fait, elle va être obligée d'envisager la vie différemment. Parce que quand on a 17 ans, mais même quand on en a 40, hein, moi j'en ai 48, on se dit, on fait les fiers, on se dit la mort. Alors qu'on est la seule espèce qui est consciente de sa propre mort. Enfin, je crois. Il y a peut-être d'autres, mais à 17 ans, on se dit mais la mort, ça nous concerne pas. Et quand d'un seul coup, on se retrouve concerné par la potentialité d'un décès ou d'une disparition, ça relativise tout. C'est qu'est-ce qu'on a le temps à faire ? C'est-à-dire, il y a une phrase. Moi, je suis né avec une trotteuse dans le dos. C'est-à-dire, perdre mon temps, jamais. Prendre le temps, si c'est nécessaire, oui. Mais gâcher le temps, je trouve que c'est criminel. Je sais pas pourquoi. Je suis comme ça. Et quand je vois des gens capables de perdre leur temps ou se le faire manger par des choses qui ne les intéressent pas, et c'est pas à moi de décider ce qui doit les intéresser, eux-mêmes, ben je trouve ça dommage. Parce qu'on a, si vous restez une heure à vivre, quel coup de fil vous passez ? Qui vous allez voir ? Qu'est-ce que vous faites ? Quand vous réfléchissez sans arrêt avec cette prérogative en tête, la vie est différente. C'est-à-dire, là, je perds pas mon temps. Je suis pas en promo, je suis en rencontre. C'est vraiment un truc qui est... fondamental dans tout. Et à partir de là, bah, vous êtes plus en paix par rapport aux choses parce que tous les compteurs sont validés. C'est-à-dire, je dis aux gens ce que j'ai à leur dire quand je les ai en face de moi. Je me dis pas, je leur dirai plus tard et après, ah, quelle misère, j'ai encore loupé le coche. Mais ça, je trouve que c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Donc, c'est presque une philosophie de vie que je n'ai pas choisie et que j'essaie, en fait, à travers un twist d'histoire, de matérialiser à un âge où ils ont théoriquement tout le temps. Mais c'est pas vrai, on n'a jamais tout le temps.
Oui, puis on a l'impression qu'à chaque fois, il y a toujours des petits événements un peu charnières, qu'il y a clairement un avant et un après sur certaines choses.
On a tous connu ça.
D'où cette expression, et soudain
tout change. On a tous vécu ces moments où il se passe un truc, c'est pas forcément dramatique, hein, ça peut être positif aussi, il y en a plein de positifs. La première fois qu'on tombe amoureux, c'est il y a avant, il y a après. La première fois qu'on mange des bonnes profiteroles, il y a avant, il y a après. Il y a plein d'exemples comme ça dans la vie où quand on est réceptif au monde, aux gens qui nous entourent et tout, il y a quelque chose de... Ouais, il y a avant, il y a après.
Mais c'est ce que vous dites, par exemple, la première fois qu'on voit cette expression dans votre livre, vous la...
Enfin, si mes... Elle est glissée dans l'action, ouais, tout à fait.
Ouais. Et à un moment, la première fois, c'est à travers les yeux du chat. D'ailleurs, sur votre prochain roman, vous savez déjà quel chat vous allez... Vous pouvez nous le dire ?
Non, je peux pas.
Non.
Non, alors, c'est pas à cause de vous. C'est les temps qu'il n'est pas validé visuellement et bloqué visuellement. J'ai pas envie qu'on me pique l'idée. Je vois les couvertures des autres et je les plains.
D'accord.
pour une fois que j'ai eu une bonne idée, honnêtement, je vais la garder. Je serai heureux de vous la présenter. Je vous en ferai ce que vous voudrez et vous jugerez. Mais je suis très content de mon coup. C'est stupide.
Bon, ben, attends. Oui, donc juste pour revenir sur, je vais y arriver sur les. La première fois que vous employez cette expression, et soudain tout change. Donc c'est à travers les yeux du chat qui, pour la première fois, voit la neige.
Oui, il découvre la neige. C'est un chaton qui découvre un jardin enneigé.
Et d'ailleurs, comment vous viennent ces expressions-là ? Enfin, par rapport à l'idée de votre titre, est-ce que ça vient dans un premier temps ? Ou alors c'est au cours de l'écriture, vous vous rendez compte qu'il y a une expression qui revient régulièrement.
Alors je vais prendre 30 secondes pour vous expliquer comment j'amène mes histoires, parce que c'est vraiment un process. J'ai 2000 des idées par jour, j'en ai 200. Heureusement, le lendemain pour vous, pour moi, il y en a 199 qui vont à la poubelle. Mais quand une idée s'accroche, exactement comme une plante qui pousse, un embryon, quand elle reste, qu'elle m'obsède, je lui laisse sa chance. Plus elle s'accroche longtemps, et plus je lui laisse sa chance. Et après, au bout de 6-8 mois, quand elle est encore là et qu'elle me revient de temps en temps et qu'elle évoque quelque chose pour moi, je me dis, bon, qu'est-ce que je pourrais passer au lecteur par là ? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de raconter par là ? Et je commence à la nourrir. Quel serait le personnage ? Quel serait le biais ? Quelle serait l'émotion ? Toujours l'émotion. J'aborde les histoires par l'émotion. Et en fait, ce processus-là, je n'ai pas envie d'écrire un bouquin tant que je n'y ai pas pensé pendant 2 ans, 2 ans et demi à peu près. C'est vraiment un processus de mûrissement. Je connais mes 8 prochains bouquins. Parce que c'est vraiment un processus de mûrissement. Et dès qu'il y en a un qui est fait, hop, le suivant arrive. Et donc celui qui était un peu plus loin s'approche un petit peu. Mais c'est vraiment. Je l'ai nourri. Mais juste avant la phase d'écriture en général, le titre me vient, mais quasiment naturellement. Je travaille dans le cinéma depuis longtemps. Et alors c'est presque une déformation professionnelle. Quand vous travaillez sur un film, il n'arrive jamais sans un titre. C'est-à-dire quand on vous dit, voilà, tu vas travailler sur ça, il y a un titre. Et donc pour moi, je n'envisage pas un projet crédible tant qu'il n'a pas de titre. C'est un peu une déformation. Mmh. Et après, j'ai de la chance, les titres, c'est un bonheur. Hein, je dis pas, c'est même pas un talent, c'est juste je ne sais pas qui me met ça dans la tête, mais il tombe toujours au bon moment, le titre tombe toujours au bon moment. Donc après, l'écriture n'est que la phase de concrétisation. Donc j'écris assez vite. J'écris une comédie en 3-4 mois et un thriller, ça prend plus longtemps parce qu'il y a beaucoup de documentation. Mais là, on travaille que sur de la matière humaine. Donc en fait, grosso modo, c'est on va dire 2 ans, 2 ans et demi de mûrissement. Le titre vient dans ces eaux-là. Parfois, il peut venir très tôt, parfois un peu plus tard. Et puis après, hop, l'écriture. Et après, vous le proposez.
Oui, vous dites que vous avez déjà 8 romans en tête. Oui. Vous savez déjà, même en 2015, le roman que vous allez faire paraître.
Deux en fait. Hein, parce que là, il y aura une comédie en octobre 2014 que je suis en train d'écrire. Après, il y aura un thriller au printemps 2015 qui est quasiment déjà écrit, qu'on devait sortir en 2014. Mais comme vous rencontrez et promotionnez la comédie prend énormément de temps et qu'à côté, je continue mon métier, les journées sont longues. Donc, on a décidé de décaler d'un an. Mais l'idée en fait, et je ne sais pas si le public adhérera, c'est. L'été, quand on a envie de s'amuser, proposer un espèce de roller coaster, une fête foraine, un peu qui fait peur, un peu qui fait rêver, un peu qui allume la tête, un thriller. Et l'hiver, quand on a besoin de se resserrer, de son verre de jus d'orange, de ses vitamines, une comédie. Alors une comédie qui peut faire appel au drame, mais toujours positive, quelque chose qui soit toujours dans la même veine pour moi. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de pas de rythmer la vie des gens, mais de tomber au moment pour eux. Et après, ils feront ce qu'ils veulent. Mais je me suis rendu compte, j'ai eu très peur, je me suis posé la question au début, et j'étais déjà connu pour des thrillers, pas au niveau de la comédie, mais ça marchait bien, on a eu des prix. Quand j'ai annoncé à mon éditeur que j'allais écrire une comédie, ils ont été très dubitatifs. Et je leur ai dit, vous lisez, puis si ça vous plaît pas, j'irai me faire éditer ailleurs, mais lisez. Ils ont accepté. Mais pour moi, c'est pas... on n'a pas envie tous les jours de regarder les mêmes films. Il y a des fois, on a envie de se faire un gros nanar, et des fois, un truc d'arrêt d'essai japonais avec un plan toutes les 2 heures et une note de musique toutes les 6 heures. Ça donne des choses assez... Mais il faut en voir de temps en temps. Et puis, de temps en temps, on a envie de se regarder des choses beaucoup plus simples. Pourquoi un auteur serait pas... On ne s'habille pas tous les jours de la même façon, on ne mange pas tous les jours la même chose. Et comme, apparemment, j'ai la capacité à changer de registre, je ne vais pas me gêner. Hein. Je vais vous bouffer tous vos rayons. Ça va être terrible pour vous, je m'excuse d'avance. Ça va être épouvantable.
Vous parliez de votre premier métier dans le cinéma. En quoi ça... Déjà, est-ce que ça influe dans votre écriture, votre façon de travailler ? Ou en tout cas pour construire vos histoires ?
Oui, alors la question est bonne, elle a 2 aspects. C'est-à-dire que moi, en écrivant pour le cinéma, c'est-à-dire en m'occupant de la communication de gros films, je suis obligé d'écrire très vite en rentrant dans les univers des autres. Vous ne travaillez pas sur un film de Catherine Breillat comme sur un film de Michael Bay. Vous ne travaillez pas sur un Bond comme sur un Disney. Donc à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'on veut dire aux gens ? Vous apprenez à parler un langage qui doit être compris par ceux que ça peut intéresser. C'est une chose que souvent les auteurs ne font pas. C'est-à-dire qu'ils estiment que c'est le public qui doit les comprendre. Pas tous, hein. Là aussi, c'est une généralité. Mais pour moi, un artiste, quel qu'il soit, c'est à lui de tendre la main à celui qui veut, à qui il veut parler. C'est pas au public de faire bac plus 8 pour comprendre une toile avec un carré noir au milieu d'un truc blanc où on lui explique qu'en fait, c'est un téléphone vu du dessus sur la banquise filmé par un ours qui avait bu. Je ne comprends pas ça, moi, ça ne me parle pas. Alors que quand je vois un Caravage, quand je vois un Rubens, quand je vois un Rodin, ça me parle, ça fait quelque chose. Quand je bois un vin, c'est pas l'étiquette. On est dans le Bordelais, vous êtes bien placé pour savoir de quoi je parle. Vous avez des vins qui n'ont peut-être pas une étiquette dorée, mais quand vous les avez dans la bouche, il se passe un truc. Je fonctionne à ça, moi. Les rencontres, les gens, les choses artificielles, je marche pas trop. Donc, dans l'écriture, le cinéma m'apprend la rigueur. Et j'aime beaucoup qu'on me dise que mes bouquins sont faciles à lire. Parce que je pense que quand on a quelque chose à dire, le fond du propos est plus important que la forme. C'est-à-dire, quand vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas... Si la première fois que vous êtes amoureux d'une fille, pardon Gwenaëlle, je ne sais pas où vous en êtes. Et voilà. Mais moi, la première fois, vous mesdames, quand on vous le dit, le mec qui vient et qui vous fait une tirade de 9 lignes, vous êtes parti, vous recoiffez, vous revenez à la fin. Parce que c'est pas intéressant. Vaut mieux avoir le regard et juste dire « je t'aime ». Les mots qui ont du sens n'ont pas besoin d'être longs. On n'a pas besoin de faire des phrases de 10 mots si ce qu'on veut dire peut tenir en 6. Ça, c'est une règle de vie. Alors après, particulièrement en France, il est plaisant de savoir qu'à l'occasion, on peut toujours faire des périphrases pour arriver au point B. Moi, ça me gonfle. Ça nous renvoie au point A, c'est-à-dire à la fin, on va tous mourir. Je veux pas perdre une heure à lire une phrase. Si elle veut dire quelque chose, je veux le sens maintenant. Donc j'essaie de l'appliquer. Donc même si j'essaie de toucher à des sentiments qui sont extrêmement complexes, c'est la vie, c'est ce qu'on ressent tous. Je crois qu'il n'y a pas besoin de l'enrubaner dans des trucs qui sont perturbants, qui brouillent en fait le message. Alors il y en a qui font ça brillamment, hein, mais c'est du style. Et moi je préfère le sens.
Puisqu'on en est dans l'écriture, est-ce que vous avez des conseils à donner à de jeunes écrivains? Ah, ça c'est la question difficile.
Non, c'est pas la question difficile parce que qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui veut tomber amoureux? Bonne chance. si vous faites frapper par cette maladie-là, croyez-y, soyez votre pire bourreau, c'est-à-dire ne laissez personne être plus exigeant avec vous-même que vous-même. Mais ça c'est une règle qui peut s'appliquer à tous les métiers. Croyez en vous. Si vous n'êtes pas sincère, laissez tomber. Si vous croyez qu'être auteur rend riche ou attire les filles pour les garçons ou les garçons pour les filles, vous vous trompez. Pour le reste, soyez heureux de ce que vous faites, c'est le meilleur moyen de le partager. J'ai pas nommé. C'est vrai qu'après, c'est, voilà, moi je suis toujours un auteur débutant, je serai toujours un auteur débutant. Il y a un truc que je fais qui est... mais ça amuse les gens à qui j'en parle, qui sont du métier. J'ai l'habitude de travailler sur les textes des autres, où je suis impitoyable. Et ce que j'aime bien, c'est quand le livre est sur épreuve, c'est-à-dire c'est la phase avant l'impression. C'est la dernière étape, c'est-à-dire c'est presque le livre, mais il reste encore les dernières relectures, les tout derniers peaufinages et tout. Une fois que le livre est fini, moi je passe à autre chose. Même si les personnages vivent encore en moi, même si le livre c'est vraiment un bout de moi, j'adore le prendre, n'importe quelle page, et essayer de me dézinguer. C'est-à-dire me dire qu'est-ce que je peux améliorer, est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce que j'en penserais si c'était pas de moi et que j'étais payé pour l'améliorer. C'est assez rigoureux, c'est un peu schizophrène comme exercice, mais j'ai pas de mal, puisque pour moi, il y a l'aspect sentimental, affectif, qui est l'étincelle de l'écriture, mais après, c'est le travail. Je dis souvent qu'écrire, c'est vraiment être un potier. C'est-à-dire, vous sortez une gadoue, il y a une terre, une glaise, et puis après, vous la mettez sur le tour, et après, vous la faites tourner, et après, c'est vraiment un travail de finition. Alors, soit vous avez les doigts gourds et vous ferez une gamelle à chien, mais il y a des belles gamelles à chiens. Hein. Soit vous ferez un ming, un truc très fin, le truc que personne n'a réussi. Mais c'est vraiment, on part de gadoue. La gadoue, c'est le cœur, c'est la vie, c'est le corps, c'est les viscères. Et après, c'est du taf, c'est du travail. C'est relire la phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je peux raccourcir? Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que ça ne fait rire que moi? Est-ce que ça me retourne? Est-ce qu'on me comprend? Voilà, c'est le... Et c'est un exercice que j'adore faire après. Reprendre un bouquin, pas pour me dire « Mais quel homme extraordinaire !»« Mais qu'est-ce que j'adore cette phrase !» C'est... Oh, puis il est beau en plus, c'est fou, il a l'air intelligent. Je vis avec moi, je sais qui je suis. Mais je sais que je suis intelligent et beau. Mais c'est vrai que c'est vraiment un exercice salvateur. Chaque fois que vous faites quelque chose dans votre vie, mais alors là, ça, vous allez tous comprendre de quoi je parle. Chaque fois que vous construisez quelque chose, à un moment, vous prenez du recul après et vous dites « Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait ?» Et pour les plus courageux d'entre nous, pour les plus volontaires à continuer, on se dit qu'est-ce que je peux améliorer pour le prochain coup ou qu'est-ce que je peux pas faire. Quand on a des enfants, quand on a des proches, on leur dit voilà, moi j'ai fait ça, je l'ai un peu raté, j'ai un conseil à donner, ne fais pas comme ça. Et le plus souvent, ils n'écoutent pas. Et on les voit rouler avec leur petit vélo vers le mur et on sait comment ça va finir. Voilà, les pompiers sont là.
Je voudrais revenir un instant sur votre nouveau roman. Vous faites dire au grand-père de Camille, même dans le pire des drames se cache toujours quelque chose d'hilarant. Est-ce qu'il y a quelque chose de vous dans cette réflexion?
Ah oui, alors là oui.
Oui, on sent que...
Alors je vais vous raconter une anecdote. C'est un truc horrible. Alors là, pour le coup, c'est tout ce que j'aime dans la vie. Et au studio, quand j'étais nommé directeur de la pyrotechnie, ce qui était un titre très énorme à moi pour porter. J'étais le plus jeune du département. J'étais nommé directeur, j'avais 19 ans. Et l'employé suivant qui avait un âge supérieur en avait 37. J'avais 134 employés et je ne connaissais rien à la vie. Les femmes venaient me parler divorce, les mecs venaient me parler moto, je ne comprenais pas. Voilà, c'était assez étonnant pour moi. Une grosse formation humaine et beaucoup d'empathie par rapport aux gens. Une de mes premières... responsabilité officielle, ça a été de me rendre à l'enterrement de quelqu'un de la boîte que je ne connaissais pas et qui était décédé. La boîte, à l'époque, on s'occupait encore socialement des gens, donc s'est occupé de la femme, des enfants, il y a eu de l'argent de versé, et ils ont donc envoyé mon binôme, un Anglais, Andrew Williams, un spécialiste des effets optiques, et moi, donc directeur de la pyrotechnie, à l'enterrement pour présenter les condoléances et rassurer la veuve. Je m'excuse, émotion, c'était... Et donc, on se retrouve avec ce crétin d'Andrew, qui est toujours un pote, sur les routes des petits villages anglais, et on se retrouve à un enterrement où on ne connaît personne, où on ne connaît pas le mort, c'est donc très abstrait, avec une famille brisée de chagrin, parce que je crois qu'à l'époque, l'homme laissait deux enfants, il avait 35 ans, donc un drame. Et nous, on était très en retrait. Moi, j'étais habillé propre, une cravate, c'est voilà, Andrew pareil, mais pour nous, c'était presque une journée de vacances. On était sur la route tous les deux. Et puis bah, tout le monde passe les uns après les autres devant la fosse avec le cercueil au fond et jette une poignée de terre. Et arrive une petite mamie qui devait m'arriver à l'épaule avec un petit chapeau comme seuls les Anglais savent porter, je ne sais pas comment ils osent ça, et un petit filet sur la tête. Et elle arrive avec sa poignée de terre, elle la jette et elle part avec. Donc nous, on était un peu en retrait. Tout ce qu'on a vu, c'est une petite dame faire hop et elle tombe dans le trou. Et immédiatement, on entend mais un choc, mais un truc. Et donc, on se dit, donc elle est tombée sur le cercueil. Et on se dit, oh merde, elle est morte. Et donc là, le truc épouvantable, le temps se fige. Mais quelque chose, mais d'horrible. Il n'y a plus rien, les oiseaux se taisent, les fleurs poussent plus rien, tout le monde est figé. Et je n'oublierai jamais ça. On voit une petite main qui sort de la fosse, toute terreuse, mais c'est pas ça le pire, on entend. Ah. Et alors là, je fais appel à votre culture cinématographique, vous avez vu E.T. Et là, instantanément, les larmes, parce qu'il y a la décompression de la peur et tout, j'explose de rire, j'ai cru que j'allais me pisser dessus. Je tourne la tête pour voir mon collègue, et je ne le vois pas. Et je vois Andrew qui était déjà à 100 mètres et qui courait comme un malade dans une allée du cimetière. Et là, je ne sais pas si vous imaginez... Alors, toute la famille, il y a tout. Vous êtes quand même obligé de vous représenter la boîte. C'est sérieux, quoi. Là. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Et donc, je reste stoïque en essayant de me calmer et de reprendre. Donc, il la sort en la tirant par les bras. Elle avait son chapeau en biais, elle avait de la terre partout. C'était épouvantable. Et Andrew revient avec, il avait une gabardine anglaise, un truc, un Burberry anglais très élégant, et il l'avait noué avec les manches autour de sa taille. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous comme ça? Il relève sa gabardine, il me montre, il s'était pissé dessus. Lui. Et donc, il avait un rond, je vous mens pas, hein, il avait un rond mouillé.
Il était comme ça, tout trempé. Il me dit, tu préfères qu'il voit ça?
Je lui dis, ok. Et alors là, le double cauchemar, c'est... On se retrouve obligé d'aller présenter nos condoléances. C'est-à-dire, vous avez tout le monde qui défile devant la veuve. Tout le monde qui défile devant la veuve en serrant la main, en présentant les condoléances. Nous, n'étant personne, on est passé les derniers. Vous viviez ça comme un compte à rebours, mais épouvantable. Parce que c'est on était quand même au bord du fou rire. Hein, parce qu'on allait serrer la main à la dame qui était tombée dans le trou. J'allais embrasser E.T. Et donc, on avance. Andrew se lâche, était après moi, c'est un Anglais. Les Anglais sont fourbes, vous le savez bien, dans la région bordelaise. Et du coup, on arrive, et il s'est passé un truc extraordinaire. Je me retrouve devant elle, et c'était, mais j'étais limite émotion, limite fou rire, je ne savais pas de quel cocher j'avais passé. Et j'ai fait un truc dont je ne me pensais pas capable, je l'ai utilisé d'ailleurs dans ce livre-là, c'est, je l'ai pris dans mes bras. Pour pas qu'elle me voie, vous savez, vous avez peur de l'ours, vous vous collez à l'ours. Et ben là, j'ai pris la petite dame dans mes bras, et j'ai explosé de rire dans le cou, elle a cru que je pleurais. Je vous jure que c'est authentique. Andrew y allait, voilà, ce genre de... C'est typique ce que... C'est, mais il y a tout le temps, même dans le pire des moments, vous avez des trucs épouvantables. C'est, enfin, non, c'est l'inverse, des trucs drôles.
Donc voilà, ça marche dans les deux sens.
Donc voilà, j'ai vécu beaucoup de ce genre de choses. Et souvent dans les pires moments, donc souvent dans des cimetières, dans les enterrements, dans des drames. Je me souviens d'un dîner chez des amis qui avaient notre âge, qui s'étaient mariés 15 jours après nous. Ils se sont fait une scène de ménage et ils se battaient avec les assiettes qu'on leur avait offertes. Donc avec ma femme, on avait leur chien, un magnifique malinois que je tenais dans mes bras, qui s'appelait Dark. Que je protégeais. Et donc Michel, qui est une amie d'enfance, qui est d'ailleurs en remerciement, qui est juste une personne géniale, elle a toujours un problème avec les mecs et ça continue. Et donc Pascal, qui était un type très bien, il continue à se voir, qui se jetait les assiettes qu'on avait payé une fortune au mariage. Et avec ma femme, on était derrière le fauteuil et on pleurait de rire. On était pétés de rire. J'aime bien ce décalage-là. J'aime beaucoup ça.
Ouh, ça se sent, oui.
Mais quand on a la chance d'avoir survécu. Tous les vrais heureux sont des gens qui ont failli être morts de malheur. Les gens qui ont vraiment morflé sont les plus aptes au bonheur. Ceux qui ont tout sont des enfants gâtés cyniques qui se contentent de désinguer les chances que la vie leur donne en disant « ça c'est pas bien pour moi, ça c'est ridicule ». C'est eux qui font preuve d'un snobisme par rapport à des gens qui essaient d'avoir une émotion. Mais voilà, c'est, moi je préfère être à ma place. C'est ce que je dis toujours, c'est je préfère être malheureux comme moi qu'heureux comme eux. On est un peu sorti de la question, je suis désolé.
Je ne sais plus quelle c'était, mais c'était très intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est que... En fait, moi j'aime bien finir, parce qu'on sent que vous êtes un auteur qui vous, aime, enfin, vous amusez quand vous écrivez.
Hein. Ah bah oui.
Vous inventez des expressions, à un moment c'était... Il faut que je retrouve dans ma fiche, la prof qui dit c'est nif-naf. Nif-naf.
Ouais, c'est un truc que j'aime beaucoup. J'ai trouvé ça... c'est ni fait ni à faire. Ouais. Mais c'est trop long à dire, ni fait ni à faire.
Ah, c'est nif-naf.
Ça j'aime beaucoup. Et du coup, c'est passé dans le langage courant à la maison.
D'accord.
Mais j'espère que ça passera dans le langage courant chez plein de gens. Je trouve ça rigolo, ce genre de mot qu'à... Une fois que vous l'avez entendu, vous pouvez plus l'oublier.
Non, je voulais juste finir cette petite rencontre avec un petit questionnaire de Proust.
C'est qui ? Non, je rigole. Je crois qu'il vend pas mal.
C'est un gars, oui, je crois qu'il
peut avoir... Il a des chats sur sa couverture.
Oui, c'est ça.
Non, il a des madeleines, mais c'est pas mieux. Hein.
Ah ben justement, en parlant de chat, si vous étiez un animal.
Le chat, moi.
Vous, comme animal ?
Non, ouais, non j'aime bien les écureuils. Je crois que je suis un écureuil. Je crois que je suis un écureuil parce que l'aptitude à monter aux arbres à faire les poubelles, ça me fascine. Non, un écureuil.
Si vous étiez un personnage historique. On n'a pas répété, hein, ça se voit. Hein,
Si j'étais un personnage historique.
Ou sinon, vous réfléchissez.
Si je faisais acte de mégalomanie, j'aimerais bien être Vinci ou enfin des gens qui ont apporté des idées et qui avaient des gens comme ça, quoi. Pas un personnage politique. Je me demande à quoi encore ils servent. Surtout maintenant. Mais gauche ou droite, hein, y a pas de. Avant, il y en avait des utiles, mais voilà. Ou une danseuse étoile, je sais pas. Non, sérieusement, ce serait... Ouais, peut-être Léonard de Vinci, mais c'est vachement prétentieux, hein, si j'étais un personnage historique.
Et si vous étiez un roman d'ordre des vôtres, évidemment ?
Le Comte de Monte Cristo.
Dumas qui revient toujours.
Ouais, ah bah oui. Mais c'est des conteurs. C'est moi, mon job, c'est si on n'avait pas inventé l'écriture, je serais conteur au coin du feu. J'aime ça. Et ces gens-là le faisaient sans prétention. Et le feuilleton, le roman populaire, pour moi, c'est juste... c'est la clé de la narration et c'est la clé... Enfin, moi, je me souviens, c'est ma grand-mère qui m'a posé le Comte de Monte Cristo dans les mains quand j'avais 11 ans. C'est un choc. Et je pense que c'est à cause de l'émotion que j'ai ressentie grâce à lui. Je me suis dit, mais c'est noble de faire partir les gens de leur quotidien et les emmener ailleurs. C'est utile.
Et si vous étiez un personnage de fiction ?
James Bond pour faire plaisir à mon fils, mais c'est compliqué. je sais pas, un personnage de fiction ? Le Comte de Monte Cristo ?
Toujours ?
Ouais, ouais, je suis assez simple, moi, comme dire. J'ai très peu de culture. Encore deux livres et j'en aurais écrit plus que ce que j'en ai lu. Non,
si vous étiez un film, Le Comte de Monte Cristo ?
Non, non, il y en a beaucoup là. Là, il y en a beaucoup. Hein. Ça va de la couleur pourpre à. Il y en a tellement. Je peux pas le résumer hein, là pour le coup. Alors, ouais. Le cinéma, pour le coup, j'en ai vu beaucoup. Il y a tellement d'émotions différentes. Ça va de Forrest Gump à Les Fous du Stade, quoi, grosso modo. Donc, ça fait un gros mélange. Hein, quand même.
Le grand écart. Ouais.
Ouais. La vie, c'est le grand
et
écart.
Et oui, c'est ça.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Si vous étiez un objet.
Je voudrais être utile. Étant donné ce que je suis, je crois que je serais une éponge. Je suis très en empathie avec les gens. Je ne suis pas une éponge, je suis utile, avec un côté qui gratte.
D'accord.
Je peux récurer parfois.
Si vous étiez un mot.
Aimer.
Si vous étiez, alors difficile, une citation. Je sais que vous n'aimez pas les citations.
C'est pas que j'aime pas les citations. Les citations, c'est extraordinaire. Le problème, c'est que notre époque, on en met partout. Les gens pensent plus par eux-mêmes, on leur met du prêt-à-penser partout. Vous avez des citations partout. Dans le hall de chez Montoubib, il y a 3 citations. Et mes grands penseurs sont ma mère, mes potes et quelques autres grands. Hein. Mais ça va de Clémenceau à Oscar Wilde. Ma mère disait « on n'attache pas un chien avec des saucisses ». C'est quand même, je trouve ça extraordinaire. Voilà, vous n'oublierez jamais. Ça vaut sur rang et qui n'avait pas de chien, je le précise. La comtesse de la Sablière a dit un truc que j'aime beaucoup et que j'avais mis dans les remerciements précédents pour tout le devoir ne vaut pas une faute commise par tendresse. Ça, j'y crois beaucoup. Et cette crapule de Mazarin a dit un truc qui me fascine et qui me tient, c'est il faut être fort pour affronter une catastrophe, il faut être grand pour s'en servir. Et voilà, après ça, si tu mets trop de sel, ce sera dégueulasse, mais c'est moins connu comme citation. Mais toutes les cuisinières le savent, c'est une grande citation quand même.
Si vous étiez une chanson. Alors, il y a une chanson dans votre, dans votre roman.
Ouais. Qui est importante.
Oui, chantée par Dean Martin, entre autres.
Elle l'a été par Dean Martin, mais elle l'a été très récemment par Michael Bublé, qui l'a très bien fait pour le coup. Donc les jeunes peuvent l'écouter. Non, ce sera. Je sais pas si c'était une. Si j'étais une chanson. C'est compliqué quand même. Hein. Ouais. La taille yo-yo ? Non, j'en sais rien. Je sais pas. La danse des canards ? Non, je sais pas. J'ai pas le genre à être une chanson.
D'accord.
Je veux pas finir en ukulélé, moi, ça me tente pas.
Si vous étiez un plat.
Mes copains diraient des nouilles. Mais. je sais pas ce que je serais, non. C'est compliqué comme
c'est
question.
C'est compliqué, mais oui.
On va jouer un jeu. Vous, Gwenaël, si vous étiez un plat, allez, bon courage.
Ah, un magret.
C'est vrai ?
Ah oui.
Non, vous valez mieux que ça. Vous êtes beaucoup plus joli qu'un magret. Quand même. Moins gras dans le dos. Mais, non, c'est... Non, je sais pas, j'ai pas la réponse.
Mais peut-être qu'il y en a pas. Hein.
Non, je sais pas.
Après, c'est difficile de...
Du basique, du pain, j'aimerais... C'est... Voilà, du pain.
Du pain.
Tout le monde en mange. Et puis, c'est voilà, ça nous manque quand on est loin de la France. Oui, donc du pain, voilà. Une baguette, je suis une baguette.
Et pour finir...
Le crouton. Non, j'arrête. Hein.
La chose la plus idiote que vous ayez faite dans votre vie.
Alors là, on va y passer la nuit. Prévenez vos familles, on en a pour un moment quand même. Donc merci d'avoir posé la question.
Je vous en prie.
Alors, quelque chose de court. Essayer de remettre la chaîne de mon vélo qui avait déraillé dans une rue en pente pendant que j'étais encore dessus et que je roulais. Donc, 5 poupées, une gamelle astronomique, mais genre, voilà, c'est juste extraordinaire. Dans la même rue, d'ailleurs, la rue de la Butte aux Mers, à côté de la maison. Essayer d'arrêter le skateboard sur lequel je roulais avec les doigts en me disant « Je ne contrôle plus !» Non, c'est cruel de rire, les filles, parce qu'on est que des garçons, on apprend la vie aussi. Donc vous êtes dessus, le truc prend la vitesse, vous dites ça va m'échapper. Donc vous dites, mais heureusement, je suis très intelligent. Je vais choper les roues et les arrêter. Ça a donné ce que vous imaginez en mieux. J'ai encore la cicatrice au front. Hein. Ceux qui ne me croient pas peuvent venir voir. 8 points de suture, la gueule en sang, les doigts pareils, repoupés, aux deux mains. et mais alors mal partout et tout. Et après, le truc le plus scandaleux que j'ai fait, c'était servir de blessé à un copain qui voulait rompre avec une copine et qui s'est servi de ça comme prétexte. « Ah, je peux pas te voir, regarde, il est blessé !» C'était moi. Je suis très fidèle en amitié. C'était ridicule, hein, c'était ridicule. Elle l'a giflé, c'était bien fait. Moi, elle m'a pas touché, je me suis sauvé. Je la vois encore. Accessoirement, c'est encore une amie. Donc voilà, après, on pourra... Dites-moi une lettre, ou une heure, ou une date, et je vous trouverai quelque chose.
Bien.
On a fini ?
Eh bien, je pense qu'on a fini.
Merci à vous d'avoir été là.
Merci à vous.
Non, mais moi, c'est normal. Merci. Continuez.